rejoins HTP.
Hey, HTP, c'est l'automne.
Saute dans les feuilles.
Vas-y, viens.
HTP.
HTP automne.
Écoute, frère. En automne, HTP radio, ça envoie des tonnes. HTP lifestyle.
Qu'est-ce qui se passe à HTP?
HTP quartier.
Tu parles de quoi là?
On parle d'HTP.
Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez malgré le masque, malgré le port du masque? Ok. Peut-être prenez place. Donc merci pour votre présence et pour l'invitation auprès du syndicat potentiel. L'invitation du syndicat potentiel. De la présence de Siamak aussi, le premier adjoint au maire. On va voir aussi pourquoi c'est important de... Premier adjoint à la ville, pardon. Pourquoi c'est important aussi sur les questions qu'on va soulever ce soir. C'est une première pour nous, Strasbourg. Moi, ça faisait 20 ans. Donc, on ne va pas vous présenter des projets qu'on a menés à Strasbourg. L'idée, c'est qu'avec Antoine Mialon, moi, je suis Flore Gracieux, on est architecte et urbaniste. Et on travaille en fait depuis 17 ans autour de questions urbaines et notamment de projets citoyens, donc qui engagent des actions forcément militantes, forcément engagées et qui engagent un certain positionnement en tant qu'architecte et urbaniste. Et avec le temps, on peut dire qu'on est aussi devenu programmiste à force d'avoir travaillé aussi sur des concours et d'avoir redéfini en général avec les maîtrises d'ouvrage d'ailleurs les contenus des pertinences des programmations urbaines et architecturales. Et on va le voir un petit peu pourquoi.
Très bientôt, ces images appartiendront au passé. Ainsi en a décidé M. Pierre Sudreau, ministre de la Construction, en visite aujourd'hui à Marseille. En compagnie de M. Aspicard, préfet des Bouches-du-Rhône, de M. Gaston Defer, député maire, et de tous les responsables locaux de la première industrie marseillaise, le ministre a tenu à visiter non seulement les très rares bidonvilles de notre cité, mais également tous les chantiers en cours. Monsieur Sudreau s'est également rendu compte de l'immense effort fait à Marseille dans le domaine de la construction. La situation du logement à Marseille a été longuement examinée par les personnalités présentes et nous pouvons augurer que d'importantes décisions ont été prises.
Donc merci à tous d'être venus ce soir découvrir ces deux expériences, celle de Topoï et celle d'Horizome à Audilus. Et alors moi je sais pas trop comment on peut procéder à partir de là. L'idée c'était un petit peu de effectivement rebondir par rapport à des dispositifs que vous avez mis en place et de voir comment peut-être à une autre échelle, dans une autre temporalité aussi, les choses se sont tissées et racontées à Audilus. Je ne sais pas ce qu'on fait par rapport au timing, il est 8h30. Est-ce qu'il y a des... Bah, je ne sais pas, on peut ouvrir un peu le débat, et puis on voulait vous proposer ensuite, à ceux qui le souhaitent, de déambuler dans nos dors jusqu'à rencontrer l'Odilus et aller dans la petite cour qui est vraiment l'espace de la rencontre. Voilà, et on a un petit pot hein, qui est prévu.
L'Odilus.
Salut, je m'appelle Adlan. J'ai 10 ans et j'habite au 6 rue des Cérémonies et on fait des trucs dans le chantier. On bricole, on fabrique des choses. Avant, c'était une clinique. Elle s'appelle Sainte-Odile. Là, on l'a donné à un autre nom et ça s'appelle Odilus.
Oui, l'Odilus, une chose immense, remplie de gens, des gens qui s'y disent des choses. En fait,
c'est pas un lieu mystérieux, mais c'est un lieu plein de mystères.
Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des choses qui peut-être qu'on n'a pas tout bien expliqué ou peut-être qu'on a oublié certaines choses ou est-ce qu'il y a des choses qui semblaient peut-être pas claires?
En fait, je me demandais, de manière un peu innocente peut-être, parce que je connais un peu l'Odilus d'histoire, mais quel est votre lien avec... oui, c'est ça. Avec l'autre association... Oui, c'est ça, exactement.
Alors, je ne sais pas, ou alors, est-ce que soit tu veux dire un mot sur l'idée de départ ?
D'abord, je voulais vous remercier vraiment pour les deux présentations, parce que je trouve que, justement, c'était le moment pour le syndicat potentiel aussi, qui travaille beaucoup sur ces questions d'intervention et de voir comment nous, en tant qu'artistes, on interagit avec les habitants. C'est une question qui traverse énormément notre travail. Donc le syndicat potentiel, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un collectif d'artistes. On a un conseil artistique dont les membres sont principalement des artistes, mais aussi des chercheurs. Et donc il nous a paru extrêmement important d'inviter à la fois Topoï, qui a une expérience depuis déjà de nombreuses années sur ces questions, qui paraissent aujourd'hui plus abordables, mais on peut imaginer qu'il y a 17-20 ans, c'était effectivement des choses vraiment très marginales. Aujourd'hui, de plus en plus, on imagine qu'on ne peut plus ne pas mettre le citoyen au cœur de décisions, en tout cas de faire semblant pour certaines municipalités, d'autres qui le font de manière beaucoup plus active. Il nous a paru vraiment important d'inviter Topoï pour nous parler justement de cette démarche et d'avoir une idée un peu plus globale sur ces manières et ces mécanismes de travail sur le plan justement de l'architecture et comment on prépare le terrain, peut-être comment on accompagne certains projets. Et évidemment, Horizome, qui sont nos voisins, amis, et qu'on avait vraiment envie de les accueillir pour qu'ils nous présentent ce travail qui, moi, me semblait extrêmement important, conséquent, un travail, sérieux dans le sens où il est sérieux parce qu'il est vraiment dans le champ de l'expérimentation. C'est-à-dire que on voit bien qu'il a fallu pour eux travailler au quotidien, réfléchir en même temps que travailler, en même temps qu'accompagner. On voit que c'est d'une complexité inouïe. Et donc, ça nous a paru évident, nous, au syndicat potentiel, d'inviter ces deux associations à se rencontrer. Je crois qu'ils ne se connaissaient pas avant. Et donc, on voulait aussi jouer les intermédiaires entre ces deux associations. Si je peux, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais voilà, c'était ça l'idée.
Du coup, j'en profite, ça marche là, pour faire un peu la transition, parce que c'est vrai que ce soir, l'idée, c'était de voir un peu comme Flore l'a expliqué, de se rejoindre autour de thématiques communes. Dans les discussions, je sais aussi qu'il y a des gens là dans le public qui connaissent déjà les systèmes de démarches participatives. En effet, dans les différents projets, donc on s'est très vite rendu compte qu'au niveau des dispositifs, eh ben il y a plein de choses qu'on avait en commun, malgré les 15 ans d'écart dans la pratique. J'exagère peut-être un peu. En tout cas, c'est toi qui t'en vante. En tout cas, il y a beaucoup d'outils en fait qui semblaient en effet très simples et qu'on retrouve régulièrement. Je ne sais pas si après il y aura des personnes de l'atelier NAP, par exemple, qui ont envie de comparer, de donner leur avis sur l'efficacité de ces outils-là. Mais malgré tout, malgré des outils qui se répètent d'un projet à l'autre ou d'un contexte à l'autre, en fait, ils donnent rarement les mêmes résultats, ils sont rarement utilisés de la même manière. Et pour deux raisons, je dirais, enfin, en tout cas, moi, les deux thématiques là que j'ai envie de mettre en avant, c'est à la fois l'aspect la temporalité. Donc, en fonction de la durée du projet et le temps passé concrètement avec les participants, parce que ça peut être un projet, il peut s'étaler sur 3 ans, mais en fait, on n'est pas forcément tous les jours sur place. Alors que justement, pour nous, à l'Audilus, c'était une expérience un peu nouvelle d'être au quotidien avec les personnes qui participent au projet autour de la pratique artistique. Et puis le deuxième gros point, je pense, qui est important à soulever ce soir, c'est vraiment l'aspect rencontre avec les personnes, donc les participants du projet. Encore une fois, c'est toujours très varié en fonction des endroits où on est, et c'est jamais facile, d'après moi, en tout cas de ce que j'en ai vu pour l'instant, de trouver la bonne manière de mettre en place cette médiation. Et donc, là, typiquement, dans le projet de l'Audilus, pour essayer de glisser tout doucement vers ce contexte-là plus spécifique, il y a eu beaucoup, en fait, de questionnements, de savoir les difficultés, en fait, de se retrouver, en fait, autour d'un projet artistique. Est-ce que cette démarche-là, elle suffit? Est-ce qu'il y a autre chose à créer autour de la démarche artistique pour permettre aux gens, en fait, de se connaître autrement que seulement autour d'un projet, puisque là, on partageait vraiment un quotidien avec les gens qui est différent, en fait, d'après moi, de permanence sur site. Donc, j'invite aussi il y a des résidents qui sont là, il y a des gens qui font des projets participatifs. Donc, je ne sais pas si au niveau de ces temporalités ou si la balle, on avait préparé des balles normalement, mais si la balle doit revenir à Topoï, ça serait bien que ça passe par quelqu'un d'autre, peut-être entre-temps en tout cas. Si ce contexte en fait de projet participatif vraiment ancré sur un territoire, est-ce que finalement il est aussi facile de le développer qu'un projet qui s'écoule sur plus de temps avec des rencontres ponctuelles? Peut-être c'est une première problématique que je soulèverais. Voilà, je ne vais pas y répondre. Ouais.
Alors, bonjour. Moi, j'arrive pas trop à situer tous ces processus et les questions qu'ils posent, parce qu'en fait, c'est super vaste. La question de la permanence architecturale et d'habiter avec des habitants et de faire valoir leur expertise, c'est quelque chose qui finalement est revenu au goût du jour assez récemment, parce qu'il y avait parce qu'en fait on est juste allé trop loin dans le fait d'accaparer la ville et de plus réussir à la faire par ses habitants. C'est-à-dire que maintenant, faire la ville, faire le territoire, faire l'architecture, c'est devenu quelque chose de vraiment pour des spécialistes. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ce que vous avez fait ou ce que d'autres personnes font, c'est juste un peu du bon sens, hein, finalement. C'est redire, en fait, il faut écouter les gens, et les gens savent un peu, de la même manière qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on avait de l'architecture vernaculaire qui a évolué, qui a été transmise au fil des générations, parce qu'en fait, tout le monde avait appris à vivre avec un certain environnement. Ben là, on réapprend à écouter les gens, et parce qu'ils ont appris à vivre dans leur quartier, et on fait valoir leur parole. Et c'est, je trouve, quelque chose de très bien, d'important, de primordial, et à la fois quelque chose où on se dit, bah, en fait, si on a vraiment besoin de ça, on est aussi un petit peu loin. C'est, en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de, je vais être un peu provoque, hein, mais de faire de la médiation, de mettre des artistes, de mettre des personnes qui vont faire ce lien, parce qu'en fait, ce lien a été cassé. Est-ce qu'il ne faut pas, justement, réussir à redonner plus qu'une valeur de... Plus que donner de la place à leur regard, donner de la place à l'action et leur redonner de la manière qu'il y a maintenant des démarches d'habitat participatif où finalement bah, il y a de l'autopromotion qui se fait et là le privé commence à regrappiller un petit peu quelques bouts de terrain sur la ville. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de se dire on peut aller encore plus loin que ça et faire en sorte que les habitants s'approprient leurs questions de territoire, créent leur propre dynamique. Bien sûr, on peut donner un coup de main. Moi, je pense que tous ces projets-là, que ce soit des projets où on récolte la vie des gens, où on vit avec eux, c'est aussi un moment d'acculturation, où finalement, on croise des savoirs. Moi, je suis architecte de formation et je trouve ça hyper intéressant de partager un peu ma vision et de pourquoi je comprends le territoire comme ça et pourquoi je veux faire de l'architecture comme ça avec des habitants. Et je pense que c'est bien de faire ça. Et après, je pense qu'il y a aussi un moment où il faut leur donner de la force, il faut les laisser prendre les mains là-dessus. Et moi, j'aimerais bien voilà, qu'il y ait des gens qui me disent est-ce que vous avez connu d'autres projets ou est-ce que vous pensez qu'il y a des projets qu'on peut faire où finalement, par exemple, l'Audilips, ça serait juste la partie 1 du projet.
Alors, moi, je ne sais pas si je vais répondre à vos questions. En tout cas, moi, je suis une parenthèse parce que je suis peut-être, je maîtrise un peu mieux la partie sociale parce que je travaille avec Riyad à l'étage et on est sur la partie accueil et accompagnement social. Et de mémoire, alors moi, ça fait 18 ans que je suis dans le social. Voire plus. Et de mémoire, la dernière fois qu'il y a eu une grande aventure comme ça, qui a duré 9 mois, c'était en 93 à Strasbourg, c'était avec Armand Gatti. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Si vous ne connaissez pas, vous me venez voir après, je vous explique. Voilà, donc c'était au quotidien des artistes et des chercheurs qui accompagnaient des personnes, 90 personnes considérées exclues, entre guillemets, par la société. Et en fait, ce qui est beau dans le projet d'Odius, c'est que ça fait depuis 93, hein, si je dis pas de bêtises, il n'y a plus jamais eu de rencontre art et social, réellement avec un budget et avec dans le temps qui dure aussi longtemps dans le temps. Et donc, c'est quelque chose qui, moi, parce que j'ai connu l'expérience Armand Gatti, j'ai connu Odilus. Et je fais beaucoup de similitudes entre les deux parce que en fait le but pour la personne accueillie hein, dans ce lieu c'est la rencontre d'une n'importe qui rencontre l'art ça permet aux personnes d'être mises sur un piédestal au niveau psychologique au niveau social d'être inclus dans quelque chose, d'être beau, d'être... Je me souviens d'artistes qui sont venus à Odilus et notamment une photographe qui a fait des portraits de tous les gens qui habitaient sur le lieu, des portraits magnifiques, d'autres qui ont fait des dessins de portraits des personnes main levée. Il y a eu des belles choses, des films, voilà, des gens qui se faisaient filmer, mais enfin, pour l'ego, c'est bien d'être filmé, je trouve. Ça te permet de passer à autre chose. Ça fait des beaux souvenirs, ça fait des beaux moments. Et je crois qu'il y a un avant et un après Odilus quand on y vit, quoi. Voilà. Je sais pas si je suis claire, mais c'était une petite parenthèse. Je sais pas si ça fait un flop, si c'est vraiment le sujet, mais j'avais envie de le dire. Voilà.
Alors bonsoir, moi je suis Riyad, je travaille pour l'association L'Étage, donc c'est nous qui avions comme mission d'accompagner d'accueillir déjà, d'assurer que tout se passe bien dans le bâtiment, que voilà, que les personnes qui étaient généralement deux par chambre et qui ne se connaissent pas, c'est compliqué, hein. Donc voilà, il fallait gérer tout ça au quotidien. Actuellement, nous sommes dans la suite, hein, justement, les personnes qui sont encore là, s'inquiètent, hein, qu'est-ce qui va se passer après à la fermeture à la fin du mois. Donc le travail qu'on réalise actuellement, c'est travailler avec la ville de Strasbourg et l'association qui s'occupe de trouver des hébergements pour les personnes, qui est quelque chose, qui est une réponse qui soit donnée à chacun des résidents à la fin du mois d'octobre. Moi, je voulais dire juste, deux choses. La première, sur le travail de Horizon pendant ces résidences à l'Audilus. J'entends beaucoup parler de concepts, de recherche et tout ça. Bon, je ne maîtrise pas du tout, hein. Ça reste très intéressant, mais je ne maîtrise pas du tout. Moi, ce que je constate, c'est que Horizon a quand même apporté quelque chose de très, très, important pour les résidents. C'est qu'ils étaient là, c'est qu'il y avait une présence, c'est qu'il y a eu de nouvelles rencontres, des regards différents de ce que ces personnes voient au quotidien, hein, parce que c'est vrai que quand on est dans cette situation, ce qu'on rencontre, c'est les gens de la rue en général, et on aime bien en sortir un petit peu, avoir d'autres relations, d'autres interactions avec les personnes, je pense que c'est cette présence d'Horizon, cette sympathie d'Horizon, ce nouveau regard, ces propositions d'ateliers, c'est cette création de liens avec les résidents, c'est peut-être, à mon avis, hein, c'est personnel, ce qui leur en fait du bien. Pendant ce temps-là, à mon avis, c'est ce qui leur en fait le plus de bien, c'est ces nouvelles rencontres. La deuxième chose, on n'en a pas parlé la soir, il y avait quand même la période du Covid, quoi, hein, confinement et tout ça, qui a été extrêmement compliqué pour tout le monde, hein, pour Horizon, pour l'étage et surtout pour les résidents, et qui a, qui a bien amputé aussi une partie du projet, hein, comme au départ, au début du projet, les questions de problèmes de travaux, hein, pas d'eau, pas d'électricité, ou des coupures intempestives d'électricité, pas possibilité d'utiliser des salles parce que pas en état, même héberger les personnes, c'était compliqué au départ parce que finalement, au départ, on avait qu'un étage, hein, pour commencer à héberger. Au fur et à mesure, il fallait remettre en état les chambres. Donc, c'est un projet ambitieux. C'était un projet ambitieux, aussi bien, je pense, pour Horizon que pour l'étage. Et pour un projet ambitieux, il faut du temps. Et je pense que si on avait encore un peu plus de temps, je pense que ça pourrait être que meilleur, quoi, meilleur pour tout, pour le projet, pour les personnes.
Je voulais aussi revenir un petit peu sur la question de... on a parlé beaucoup des projets avec les citoyens, comment on inclut, comment on change le processus de regard du côté des décideurs, du côté de l'administration, du côté des autres habitants aussi, comment effectivement un habitant peut devenir lui-même un membre actif, voire il devient force de proposition. Et donc, on parlait souvent d'expertise d'usage. Et je trouve que c'est quelque chose qui devient de plus en plus courant, dans des prises en compte. Mais pour le moment, je crois que politiquement, ce n'est pas encore tout à fait acté que le citoyen puisse participer de manière aussi active, je veux dire, à son propre projet. J'entendais le jeune homme tout à l'heure qui parlait justement de comment les citoyens pourraient, au contraire, même être beaucoup plus que juste écoutés, d'être membres actifs véritablement dans la proposition, dans l'élaboration même du projet architectural. Je pense que les deux associations que vous êtes aujourd'hui, je crois que c'est un peu l'idée, c'est-à-dire de partir de la parole pour arriver à quelque chose de beaucoup plus concret et de forcer, à mon avis, ça reste vraiment mon avis, de forcer un petit peu les pouvoirs publics à les reprendre en compte et à les reprendre en considération dans les processus d'usage et autres. Et donc, je trouve que, justement, vous êtes ces deux associations montrent bien qu'il y a une envie, un désir. On travaille sur les marges aussi. souvent, et c'est jamais simple parce que souvent c'est assez déconsidéré, hein, c'est pas les budgets, c'est pas là qu'on les trouve, hein, on les trouve ailleurs dans d'autres projets urbains beaucoup plus importants, on va dire, hein, quand on pense ici à Strasbourg, au Wacken, j'ose pas imaginer les moyens qui ont été mis. Quand je vois effectivement le projet Odulis qui a pu avoir lieu grâce, je le dis parce que Siamak est parti, mais j'avais un petit peu suivi le projet, et je sais que c'est grâce à certains élus et à leur conviction que des choses de ce type peuvent se faire. Et malheureusement, ça ne repose que beaucoup sur eux. Et donc, il faut réussir à convaincre. Donc, là aussi, pour nous, au syndicat Postenciel, c'était aussi l'occasion d'être à la fois en affinité, en support et en voisin bienveillant, en se disant voilà, comment on peut faire tous ensemble pour forcer effectivement à ce que la parole du citoyen redevienne, je veux dire, une question centrale, politique. La balle à qui ?
Les citoyens sont au centre, mais je suis pas sûre que ce soit amplifié ici. Mais pour répondre aussi à votre question à droite, mais par exemple, le Festival de l'Art des Lieux, ce ne sont pas en fait le groupe Arène, sociologue, artiste, géographe, hein, ce sont des groupes de citoyens qui font appel à eux, qui décident d'organiser avec des artistes. L'organisation dure un an, ensuite ils ont même séparé les festivals de 2 ans, parce que c'était une telle co-organisation à 200 personnes. Mais ce que je veux dire, c'est que ça vient d'une demande habitante. On n'est pas toujours à répondre ou à une invitation, ou parfois les projets, on les mène parce que des personnes s'adressent à nous, ou alors ça vient d'un autre projet sur lequel on est intervenu en intervention extérieure, et tout à coup, il y a un enjeu qui émane des citoyens. Donc, ce n'est pas forcément de forcer la main ou de forcer. Voilà, pour répondre à ça, c'est parfois l'inverse, en fait.
Oui, d'accord, mais peut-être quand les habitants sont en demande, ils peuvent eux-mêmes avoir une action auprès de leurs élus, mais à un moment donné, il faut aussi, la question du financement, elle est importante.
Alors là, oui, exactement.
Je crois, quand même, elle est centrale, quand même.
En fait, en tant qu'architecte urbaniste, tu te sens aussi dans une espèce de capacité aussi à déployer des systèmes, une expertise, une expérience, et à pouvoir travailler sur ces questions, développer des projets, non seulement faire un diagnostic collectif, savoir comment positionner la place de chacun, et surtout motiver, comme tu dis, les élus, les décideurs, à être autour d'une table, autour d'un procédé. Parce que bon, les habitants sont là, quoi. Après, les personnes à motiver sont dans des contextes pédagogiques, ce sont les enseignants parfois qui t'invitent sans savoir vraiment pourquoi, parfois. Et en tout cas, ils sont toujours étonnés du résultat ou de donner autant de place à l'étudiant, quoi. Et c'est un petit peu aussi semblable pour certains projets.
C'est un peu le travail que tu as mené à Zemmour avec l'association justement d'habitants où les pouvoirs publics étaient absolument pas là, mais bon, on voyait bien aussi à la fois l'envie, le désir des habitants de faire appel à l'association et à travailler avec elle, mais on voit aussi la limite quand des financements sont pas là, et c'est surtout là que je dirais que le bât blesse, et souvent on est en difficulté malgré l'énergie, l'envie et le désir de faire énormément de choses avec ses habitants.
Arrête. HTP Radio, c'est fini pour aujourd'hui.
Tchuss, salut.
Retrouve-nous sur htpradio.org. Allez, ciao.
Bismillah.
À bientôt.
À plus dans le bus, ma puce.